Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Alors, nous sommes au musée de l'ODEV avec la nouvelle directrice, Madame Moreno.
Bonjour.
Bonjour, Madame Moreno.
Bonjour.
Alors, il n'y a pas très longtemps que vous avez pris vos fonctions.
C'est vrai, il y a quelques mois.
Succédé à Yvonne Papin, donc, avec qui vous avez longtemps travaillé.
Absolument, oui. Voilà. Que je salue si elle nous écoute.
Alors, nous la saluons aussi, parce qu'on a eu plusieurs entretiens avec elle qui étaient toujours très intéressants. Alors, nouvelle exposition, sinon nous ne serions pas là. Nouvelle exposition qui peut surprendre dans une ville moyenne rurale de l'Hérault. Et en même temps, je me dis qu'il est complètement dans la logique du musée. Parce qu'il y a,
c'est ça, oui.
Il y a un rapport à
un peu paradoxal
et à la terre. Il y a eu des expositions qui tournaient autour du Salagou, de l'Aubrac. On avait de très belles expositions. Et là, on va retrouver ça avec l'art aborigène, avec une exposition intitulée « Le temps du rêve », qu'il faudrait presque dire en anglais,
dreaming,
parce que c'est pas leur rêve comme concept, mais oui, plutôt comme quelque chose qui est un processus actif et quasi permanent.
C'est ça.
Alors, comment est née cette exposition ?
Alors, c'est une exposition qui d'abord est une chance, c'est une rencontre, un partenariat, celui avec ICA, l'Institut des échanges culturels de Tübingen, avec qui nous avions déjà travaillé, puisque vous êtes coutumier du musée, nous avions déjà élaboré un partenariat avec eux sur l'exposition Psychose. Eh bien, ils nous ont présenté les responsables de la collection d'Alison et Peter Klein, qui est une collection privée, qui est constituée notamment d'art aborigène australien. Cette collection est un musée également, un musée privé en Australie, et nous avons pu établir un partenariat qui nous a permis effectivement de présenter dans un musée rural, vous avez raison de le préciser, plus d'une centaine d'œuvres d'art aborigène australien. C'est quand même remarquable quand on sait que si on veut voir de l'art aborigène en France, il faut essentiellement se rendre à Paris au musée du Quai Branly ou à Lyon au musée des Confluences. Donc voilà, nous avons la chance
de Paul
pouvoir...
Valéry de Sète nous en avait proposé une il y a quelques années.
Absolument, il y a quelques années qui avait
une dizaine d'années à peu près.
Oui, il y a quelques années qui avait eu beaucoup de succès. On se souhaite d'avoir le même succès.
C'est la collaboration que vous évoquiez avec l'exposition Psychose autour de l'expressionnisme allemand, si j'ai bonne mémoire.
Absolument.
Je trouve qu'il y a quelque chose de commun dans l'esprit entre les deux, dans le sens où c'est pas l'esthétique qui domine, c'est
le
autre
discours,
chose.
Hein.
Et c'est un rapport à l'environnement social, mais là,
oui,
c'est l'environnement naturel.
Oui.
Et sans recherche de faire du beau.
Tout à fait, oui. Oui, belle, effectivement, illustration. Vous avez parfaitement compris mon propos. En effet, l'art aborigène australien a une belle place dans le marché de l'art. Il est très graphique, très séduisant, le pointillisme, le dot painting. Mais il n'y a pas que ça, effectivement. On n'est pas dans un art décoratif. Et en effet, le discours est important, comme à l'époque pour l'exposition Psychose. Et ce discours, il est même essentiel pour comprendre l'art aborigène. Et ce concept très fort, qui est le temps du rêve, alors on va pouvoir développer pour vos auditeurs, le temps du rêve, c'est en fait le temps des récits fondateur de la culture aborigène, qui est lié au passage des grands esprits totémiques qui ont façonné l'Australie. Alors l'Australie, c'est un vaste territoire, ils ont créé les rivières, les rochers, les hommes, les femmes, les végétaux, les lois aussi, des lois tribales qu'il faut respecter. Et c'est un cadre de vie, en fait, un cadre social pour les sociétés aborigènes qui se transmettent depuis 65 000 ans ces récits, ces rêves, qui sont des codifications aussi pour une survivance dans un territoire désertique ou aride. Voilà. Donc le temps du rêve, c'est un concept très compliqué à évoquer en une seule phrase, mais c'est tout ça à la fois.
Alors, ce temps du rêve, vous expliquez dans la visite de presse, qu'il y a, ça, il y a des récits qui sont derrière et qui sont extrêmement importants. Des récits qui, alors on peut pas dire qui accompagnent, je pense que je trouve, ça me semble pas le bon mot, mais qui sous-tendent, qui donnent leur profondeur à cet art-là, qu'on aurait tendance à lire, nous, comme assez joli, c'est un peu de l'abstraction géométrique.
Tout à fait.
Sans voir tous les récits, toutes les significations, toute la dimension symbolique. Alors, est-ce qu'on peut apprécier cet art en méconnaissant les récits ?
Eh bien, belle question. On peut l'apprécier effectivement parce qu'elle flatte l'œil, parce que c'est décoratif, parce que c'est beau et qu'on a le droit d'apprécier quelque chose juste entre guillemets parce qu'il est beau. Ça nous fait déjà du bien. Et j'en profite pour dire ça parce que souvent les gens me disent « Ah mais moi je vais pas visiter les musées, j'y connais rien ». Mais attendez, vous êtes capable de dire si vous ressentez quelque chose, si c'est beau ou pas. Et le simple fait que ce soit beau est déjà en soi quelque chose d'important. Les psychologues vous le diraient, le beau exerce chez nous de la dopamine, ça nous détend, enfin on a le droit de trouver ça beau. Cependant, pour revenir à notre propos, on pourrait tout à fait passer à côté de ce qu'est l'art aborigène. Et d'ailleurs, pour ces peintres aborigènes, ce qui compte, c'est pas tellement le fait de réaliser l'œuvre, son aboutissement, mais le fait de la dessiner, c'est le temps de la réalisation qui est important. D'ailleurs, ces œuvres, au départ, maintenant, évidemment, elles sont réalisées sur toile et elles se vendent très bien, mais au départ, c'était des peintures rupestres ou c'était des dessins sur le sol ou des peintures sur les corps. C'était éphémère, parce que ce qui comptait, c'était d'invoquer les esprits, d'invoquer les récits. C'était pas tellement la matérialité de l'œuvre qui compte. Cependant, aujourd'hui, c'est un moyen pour ces peuples aborigènes de communiquer sur leur culture et c'est aussi un moyen de survivance.
Oui, vous disiez qu'il n'y a pas de mots dans les langues aborigènes, parce qu'il n'y a pas une, il y a plusieurs langues, il y a plusieurs groupes
250,
aborigènes, plusieurs cultures aborigènes.
Absolument.
C'est notre syncrétisme occidental qui les met tous dans le même paquet.
Je suis d'accord.
Il n'y a pas de mots pour dire art,
non.
L'équivalent, le concept d'art n'existe
pas. Aucun mot équivalent, c'est vraiment un mot occidental.
Pour autant, il est bien vivant.
Et oui, et pour autant, ce qu'il réalise est vraiment de l'art. C'est vraiment une pratique artistique, avec un style parfois que développent certains artistes d'aujourd'hui. Oui, mais pourquoi pas de l'art? Parce que ce n'est pas le but qui est recherché. Encore une fois, ce qui est recherché, c'est une cérémonie. Une cérémonie, elle va se passer avec des rites, des totems, les fameux poteaux, les objets sacrés, les peintures, et des peintures qui font en fait permettre une connexion avec cet esprit. Cet ancêtre que l'on va invoquer. On va invoquer cet esprit parce que c'est une manière en fait de redonner vie à cette terre. On invoque cet esprit pour invoquer la pluie, pour invoquer la naissance des végétaux, pour revenir sur des temps de passage, de loi, quand par exemple il y a une cérémonie sur un jeune homme qui devient adulte. Voilà, c'est toute une tradition, une culture qui prime sur la matérialité de la peinture.
Oui, alors vous parlez de cet esprit. On a souvent cette référence aujourd'hui aux cultures aborigènes, un peu dans des mouvements un peu New Age, comme on les qualifie. On le voit aussi dans des séries télé avec des policiers, des séries policières, hein, tout simplement, mais où il y a des aborigènes, et puis on voit qu'on fait le saut dans une autre culture où, effectivement, le rêve a une réalité pas du tout freudienne,
oui,
je veux dire.
Absolument.
Mais c'est très effectif et c'est très respectable, c'est revendiqué, même si ça suscite une très grande incompréhension de la part des Blancs qui sont arrivés là-bas.
C'est ça, ils sont arrivés donc au XVIIIe siècle, hein, le capitaine James Cook en 1770, avec l'idée d'éduquer ces peuples, mais en fait ces peuples, ils étaient parfaitement adaptés à leur lieu de vie. Et c'est plutôt aujourd'hui eux qui auraient des choses à nous enseigner sur le respect à cette nature, sur cette sauvegarde, cette préservation de la nature. Effectivement, il y a une partie dans l'art aborigène qu'il est difficile parfois de comprendre. Et c'est pour ça que dans l'exposition, nous avons essayé d'y joindre un documentaire qui a été réalisé par une anthropologue, Barbara Glowinski. Il y aura aussi un cycle de conférences, justement, tenu par Barbara Glowinski et Stéphane Jacob Langevin, parce que il y a tout un décalage, effectivement. Ce temps du rêve, ce rêve, il n'est pas freudien, effectivement. C'est difficile à imaginer comme concept. C'est une forme de rêve collectif, en fait. Il y a un tableau, par exemple, qui évoque un rêve, celui de Thomas Rover. Il rêve d'une femme qui lui parle de l'arrivée d'un cyclone. Et en fait, il anticipe, effectivement, l'arrivée des colons. Et ce rêve personnel devient un rêve collectif et ils se réunissent avec les initiés et ils décident que certains rêves vont intégrer le temps du rêve, les récits, parce que ce temps du rêve, ce mythe n'est pas passé, il est toujours en cours de construction. C'est ça qui est complexe.
Oui, c'est le toujours en construction que vous évoquez qui est important, parce que c'est pas un art qui entre guillemets, qui illustre le passé ou qui remémore le passé, mais qui maintient en vie quelque chose qui est toujours actif.
Absolument.
Et je pense que le mot actif, c'est bien celui-là qu'il faut souligner.
C'est ça. C'est pour ça que le mot anglais « dreaming », il a cette notion en cours, quoi, de réalisation.
Oui. Si on voulait le traduire fidèlement, il ne faudrait pas dire le rêve, mais le rêver.
Ou en rêvant.
En faisant de l'infinitif du verbe un substantif. Voilà.
Tout à fait. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, oui.